le but de l'exposé aujourd'hui, c'était de présenter la composition du Coran, donc la façon dont le Coran est structuré, que ce soit au plus petit niveau ou au plus grand niveau, tel que ça a été présenté par Michel Cuypers, qui a écrit 3 livres dessus, dont un qui s'appelle La composition du Coran, justement. Et avant, ça avait été systématisé complètement par Roland Menet sur les textes bibliques. Donc Michel Cuypers avait fait une application d'un système avait été découvert avant lui, sur le Coran, il a vu que ça marchait très très bien. Donc, je vous ai donné à tous un petit... vous avez quelques feuilles avec les citations qui montrent un peu l'importance que ce sujet avait, a pu avoir dans l'histoire, avec, donc je vous laisserai déjà des citations. Sur la première citation de Vicari, qui dit que la science des corrélations dans le Coran est celle qui fait connaître les principes d'organisation de ces parties. Elle est le secret de la rhétorique. Elle fait connaître le sens visé par telle sourate et par chacune de ses propositions. Ainsi, une telle citelle est extrêmement précieuse. Lui parle des corrélations, donc c'est un peu des liens qu'on peut faire. Mais là, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire voir vraiment une structure, comment les choses sont agencées ensemble. Mais, comme il le dit, ça donne un lien vers le sens. C'est-à-dire qu'en regardant de proche la structure, et surtout en regardant comment vont tous les versets ensemble, et pas un par un, ça donne beaucoup d'indices sur le sens donné par le texte. Donc là, c'est pas très grave, vous pouvez peut-être lire un petit peu, plus tard ce sera en plus gros, c'est juste un support pour parler de l'historique de la recherche sur le sujet. Donc, au 3e et 4e siècle de l'Égypte, il y avait déjà des savants musulmans qui s'intéressaient au sujet, pas beaucoup, et on appelait ça Nidam al-Quran, donc le système du Coran. Malheureusement, leurs écrits sont perdus et on en a des traces que parce qu'il reste qui a été cité par d'autres auteurs à la suite, notamment ceux qui parlent de Hijaz al-Coran, le miracle du Coran, la façon dont c'est miraculeusement préparé. Donc on n'a pas beaucoup de noms ni de textes, mais ça existe. Ensuite, on a Jurjani, Razi, Jafar ibn Zubayr, qui ont des fortes intuitions. Qu'on relit souvent pour voir ce qu'eux, ils avaient trouvé en fait déjà avant, ont une forte intuition sur la construction du Coran et le lien entre les différentes parties et différents versets. On a quelqu'un qui est assez intéressant, c'est Al-Bukhari, qui est mort vers 1500, et qui commence à voir que le Coran dans son ensemble a une structure, qu'on n'est pas sur des atomes séparés, mais qu'il y a une structure d'ensemble. Et ensuite, on a quelqu'un d'autre qui est intéressant pour notre sujet, un peu en à côté, c'est Ibn Tamia, et qui parle de tafsir al-Coran bil-Coran, c'est-à-dire qu'on peut expliquer le Coran par le Coran, en faisant des corrélations encore, comme disait Bukhari, et en allant chercher le sens par d'autres versets. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas chercher le sens par d'autres versets, quoi qu'on pourrait le faire, on en parle peut-être à la fin, mais on va voir comment déjà le contexte proche, tous les versets sont articulés ensemble. Mais cette idée d'Ibn Tamia, elle est assez proche de ce que nous on va faire. Dans les modernes, donc c'est-à-dire à partir du XXe siècle, on a Saïdawa, qui étudie la cohérence interne des sourates. Donc c'est-à-dire qu'il voit dans les sourates comment ensemble, elles sont toutes, elles ont un agencement interne qui est correct. Et surtout, on a Amin Arsan Islahi, qui est un Pakistanais, indo-pakistanais, parce qu'il était vivant déjà avant la séparation entre l'Inde et le Pakistan, et qui regarde non seulement la composition des sourates à l'intérieur, c'est-à-dire comment il y a différents groupes de textes qui vont ensemble dans une sourate, mais aussi comment ça compare les sourates ensemble. Et il remarque notamment que toutes les sourates fonctionnent par paire. Ça, on va le voir ensemble, on va voir des exemples précis, mais il a fait un... C'est-à-dire que quand la recherche parle d'un texte qui est complètement alambiqué, qui va de travers, Islahi, il dit déjà non seulement il y a une structure interne des sourates, mais les sourates ensemble, par paire, elles fonctionnent. Et il fait 7 grands groupes de sourates dans le corps. Donc lui, il a déjà, il voit l'ensemble, c'est pas précis, c'est pas systématisé, mais déjà il a exposé la structure, on peut trouver son tafsir en ligne sur Internet, si j'ai le temps, je vous en montrerai un sur la sourate alpienne. Donc si vous cherchez Tadabour et Coran sur Internet, vous allez trouver la plupart des sourates en anglais et les autres analysées en pakistanais. tout ça, c'est dans la recherche purement musulmane. La recherche biblique a beaucoup apporté parce que à partir du 18e siècle, on a des gens comme Laus avec le parallélisme ou Bengel qui, avec les chiasmes et les compositions concentriques. C'est-à-dire qu'on a des gens du 18e siècle qui, en étudiant le texte biblique, trouvent aussi une structure interne et voient que dans les morceaux, qu'ils soient en prose ou qu'ils soient en vers, que ce soit de la poésie ou de la narration, il y a une structure interne faite de parallélisme qui est très très forte et qui s'applique à tout le texte. Avec différents, ils voient aussi, eux, déjà les différents niveaux de composition. Donc, on a au 19e siècle, Jebb et Boyce, qui présentent déjà une structure un peu systémique. Et on a Bullinger aussi. Tout ça, c'est dans la majorité, c'est des protestants qui sont très proches de la Bible. Bullinger qui va proposer toute une version de la Bible entièrement avec des constructions à différents niveaux. Donc, on a aussi Lund, qui va s'intéresser au centre. À leur époque, on a déjà compris les centres. Qui va proposer des lois qu'on va voir ensemble par la suite. Marcel Jousse également. Et surtout, le grand apport récent, c'est Roland Menet, qui a récupéré, relu toutes ces règles et les a systématisées et a montré que non seulement c'est des règles, c'est des constructions, mais tout ça, c'est un système avec des règles propres. Et il a fait une grande synthèse de tous les travaux précédents. Donc, c'est les travaux de Menet qui ont amené Michel Schuppers à travailler sur le Coran et qui a vu que ça fonctionne. Dans les modernes, qui sont ni chrétiens ni musulmans, on a Robinson et Zarrison qui étudient des longues sourates, la sourate al-Baqarah, la sourate al-Nisa, et qui veut étudier toute leur construction interne. Alors, la première chose qui est déroutante quand on lit un texte biblique ou coranique, c'est... Donc, je vais commencer avec des exemples qui sont un peu plus proches de la Bible, parce que les livres qui sont écrits sur le sujet, j'ai pris beaucoup chez Roland Menet, ça c'est chez Roland Menet, dans son livre qui fait la systématisation sur le sujet. Et après, vous allez voir, on va passer, on n'aura plus que du Coran sur la fin. Donc là, il parle de parataxe, et c'est très important, c'est-à-dire pourquoi les gens sont déroutés, c'est que souvent... Dans la rhétorique, dans la façon de faire sémitique des juifs, puis des chrétiens et des musulmans, on n'a pas des raisonnements qui s'enchaînent et qui forcent un peu la lecture avec des preuves. On laisse la personne réfléchir. Et pour faire ça, comment ça se fait? Je vais essayer de vous montrer. On pose des idées l'une à côté de l'autre, et c'est au lecteur de faire le lien entre les idées. Vous allez voir notamment que, alors par exemple, on va dire. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Ces deux images, chacune de son côté. Mais ensemble, quand on va le lire, on va faire un lien logique de comparaison. On va se dire, on comprend que la façon dont le paresseux tourne sur son lit, c'est la même chose que la porte sur ses gonds. C'est le cerveau qui fait. Le lien n'est pas formellement expliqué. Avoir aussi un lien de conséquence, de finalité. Éduque le jeune à l'entrée de son chemin. Même devenu vieux, il ne s'en écartera pas. Là, en fait, le même, il a été rajouté par la tradition, on aura devenu vieux, il ne s'en écartera pas. Donc on comprend, il y a un parallèle entre le jeune et le vieux. Donc là, déjà, dans la parataxe, on voit notre binarité et nos parallèles. Et le cerveau va tout seul faire le lien entre le jeune qui est éduqué et le vieux qui suit son chemin. Ça peut être un lien de causalité. Ne convoite pas ses mets, car c'est une nourriture décevante. Hein? Voilà, là le car encore a été rajouté. Mais dans le texte, il est c'est une nourriture décevante. Le cerveau fait tout de suite le lien de causalité. On a ici anneau d'or au nez d'un porc, une femme belle et manquant de jugement. Celui-là est intéressant parce que le cerveau, on peut même si on réfléchit combler un manque. C'est-à-dire qu'anneau d'or au nez d'un porc, c'est la para, l'or ça ne sert à rien d'autre que la beauté, une femme belle et manquant de jugement. Donc on se dit, tiens, voilà, c'est comme l'anneau d'or, une femme belle qui servira que à la beauté. Mais ici, il y a le nez d'un porc. Il n'est pas repris dans la deuxième phrase. Et donc, on imagine tout de suite, le porc, c'est le mari. Et ça, ce lien, il n'est pas dit, il n'est pas explicité. Mais manquant, qui c'est qui manque de jugement? C'est peut-être la femme belle, mais c'est aussi le mari qui ne pense qu'à la beauté. Voilà. Donc, c'est des travaux qu'on peut faire sans qu'ils soient, dans sa tête, sans qu'ils soient explicités. Ça, c'est un peu la paratraque. Et alors, on va lire rapidement ce qu'on dit Ménet, parce que c'est quelque chose d'important. La binarité et la parallaxe sont étroitement liées. En effet, pour que les choses soient posées l'une à côté de l'autre, il faut qu'elles soient au moins deux. Tout le travail du lecteur consiste à saisir le rapport entre ce qui paraît simplement juxtaposé. Et voilà ce qui fait la différence fondamentale entre le monde grec et le monde juif, entre la rhétorique gréco-romaine et la rhétorique biblique et sémitique. Cette différence peut être ramassée en une formule. Le grec démontre, le juif montre. Le grec entend convaincre son auditeur, le conduire de manière linéaire, par un raisonnement logique, suivant une démonstration appuyée sur toute une série de preuves, jusqu'à une conclusion qui devrait le contraindre à l'adhésion. Et elle dit bien contraindre parce que quand on expose un raisonnement, on arrive à un résultat. Ça peut être utile dans les travaux de physique, de mathématiques et tout ça, mais le lecteur n'a pas le choix. Enfin, on lui prouve qu'on a raison. Là, dans les textes sémitiques, le juif, au contraire, se contente d'indiquer le chemin que peut emprunter celui qui veut comprendre. Donc, il y a une démarche qui est volontaire de la part du lecteur et qui l'emmène un peu où le texte emmène, mais aussi où lui, il veut bien être emmené. Il n'est pas contraint.
Non, juste un truc.
Il n'est pas contraint.
La parallaxe, c'est la binarité. Comment tu la distingues?
Bah, ça va ensemble, c'est qu'en fait, ici, le jeune éduque le jeune à l'entrée de son chemin, devenu vieux ne s'en écartera pas. Tu poses deux choses l'une à côté de l'autre. Mais, donc ça, c'est la parataxe. Et la binarité, c'est que justement, pour que tu comprennes, il faut qu'il y ait un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que là, on va voir le jeune et le vieux, l'éducation, et puis son résultat, il ne s'en écartera pas. C'est la reprise du chemin ici. Donc le parallèle entre l'entrée du chemin et ne s'en écartera pas, ça donne une image qui est tout le temps reprise dans le Coran et dans la Bible, c'est l'image du chemin qu'on suit. Mais il faut, en posant des choses l'une à côté de l'autre, pour qu'elles aient un sens, il faut qu'il y ait des repères. Et les parallélismes se forment entre les deux phrases. Et c'est les parallélismes qui sont l'indication ensuite de la structure. On va voir. Alors, on verra un peu, tout petit peu plus tard qu'est-ce que ça donne sur la structure. Comment ça? C'est la base de la structure au petit et au grand niveau. Mais juste avant, on va parler un tout petit peu plus de binarité avec des exemples pris dans la Bible et dans le Coran. Au premier niveau, entre des termes, entre des mots ensemble, comment juste poser deux mots va produire du sens. Par exemple, on a dans la Bible mot tamut, tu mourras de mort. En posant deux fois le même mot, on va renforcer le sens, et ça, ce qu'on traduit en général par tu mourras certainement. C'est une chose qui est sûre, certainement. On a renforcé en la disant une deuxième fois. On a un texte intéressant aussi ici où ça va un petit peu changer le sens. Mets tes orisdete humine, tes orus, et puis tes guest. Ne vous faites pas de trésors sur la terre. Ça va être repris plus tard en disant. Ne thésaurisez pas, thésaurisez plutôt des trésors dans les cieux. Mais la reprise de thésauriser des trésors, là en grec c'est le même mot, hein, trésor et trésor. Ça veut dire que c'est pas seulement accaparer des richesses, c'est mettre toute son âme dans les richesses. Ne plus penser qu'à ça. Et ce sera montré à la fin en disant, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, de répéter deux fois le mot, ça veut dire qu'on n'est plus seulement dans l'ordre du trésor de l'argent, mais vraiment de la volonté sur ce trésor.
Donc, ça joue sur la polysémie des mots.
Là, c'est plutôt sur renforcer. En disant deux fois le même mot, on va renforcer son sens, éventuellement pour atteindre un autre niveau. Trésor, c'est plutôt on atteint un sens symbolique, en fait. On part d'un sens matériel, on atteint un sens symbolique plutôt. La totalité, alors là on a un exemple qui est pris tout le temps, depuis le début de la vie jusqu'à la fin du Coran, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est réussi par Elohim, et Hashamaim, Jet, Aeret. Donc c'est les cieux et la terre, Asama ou Al-Urt, et ça veut dire en fait tout l'univers. Comme on va dire par exemple, des pieds à la tête, ça veut dire en fait tout le corps. On va dire les petits et les grands, ça veut dire tout le groupe. Donc ça, en mettant deux mots côte à côte, on crée un sens qui est plus fort. On a aussi des paires. On va en revoir des paires par la suite. Il y a des mots qui vont souvent ensemble. C'est pas le même mot, c'est pas la même racine, c'est pas la même idée. On va mettre les deux ensemble et ça va créer un sens qui qui accompagne tout le temps le lecteur. Là, on a un exemple qui revient souvent dans la Bible, c'est Sadaka Vemishpat, c'est la droiture avec la justice, le jugement. On fait le lien, la droiture d'une personne, ça va avec la justice en général. On a dans le Coran, souvent, la zakat et la salat. Et la zakat et la salat, c'est deux activités qui sont différentes. Mais dans le Coran, elles sont systématiquement posées ensemble. Ou quasiment tout le temps, on évoque l'une, on évoque l'autre avec Aladin Yuminun, il rêve, ou Yukimun Al-Salat, ou Mima Razaknahum, Yunfikun. Donc, ceux qui croient à l'inconnaissable, c'est une chose, accomplissent la prière et de ce qu'on a accordé font dépense. On a plusieurs exemples, comme ça dans le Coran, beaucoup. On va présenter la Salat et la Zakat avec des termes différents, mais les deux idées sont toujours mises ensemble. Il y a la Salat qui est tournée vers Dieu et la Zakat qui est tournée vers les hommes. Mais ces deux actions sont mises ensemble. On va voir ici comment justement, dans la sourate El Asr, donc là on parle de binarité à un petit niveau entre des mots, et comment cette binarité va servir de base à la construction du Coran. Pourquoi ? Ici on va voir une petite sourate qui est faite entièrement sur la binarité. Bon, donc je vais vous la dire pour tout le monde en français, comme ça. Et le temps, ainsi l'homme dans la défaite, sauf ceux qui croient, effectue les œuvres salutaires, et s'encourage dans la vérité, s'encourage dans la patience. On voit que deux à deux, les phrases vont ensemble. Il a l'adin amanu ou amilu asalihat, c'est ceux qui croient et effectuent les œuvres salutaires. Ça, c'est encore un binôme de choses qui vont ensemble. C'était une grande discussion théologique chez les chrétiens de savoir si la foi et les œuvres, ça va ensemble, parce que c'est juste la foi qui importe. En fait, il y avait une dispute déjà dans les premiers chrétiens, juste après Jésus. On a par exemple un texte de Jacques qui explique pour lui, c'est un texte polémique, qui dit que pour lui, ça ne peut que aller ensemble. On va voir ici qu'il y a aussi une construction qui revient comme chez nous. Si quelqu'un dit avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, la foi pourra-t-elle sauver lui? On voit juste en face, il va réutiliser la même phrase, dit autrement, si la foi, si elle n'a pas les œuvres, il a remis les deux ensemble, elle est morte par elle-même. Donc pourra-t-elle sauver? Non, elle est morte. Là, on voit déjà un parallèle qui est construit sur ce parallèle entre les deux. Il met au centre, donc il reprend ça, au centre, il va mettre un exemple. Si quelqu'un dit à un autre, mange, réchauffe-toi, mange et réchauffe-toi, sois bien, et qu'il ne lui donne pas de la chaleur, qu'il ne donne pas un logement, qu'il ne lui donne pas la nourriture, sa parole est vaine. Donc là, pour lui, pour Jacques, c'est un exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand le Coran reprend la foi à ceux qui croient effectuer les œuvres salutaires, à l'iman ou à salihat, il prend directement position, comme ça c'est juste une aparté, mais il prend position dans un débat entre les chrétiens, et il dit que lui, le Coran prend position pour Jacques, il dit la foi et les œuvres vont nécessairement ensemble. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la structure. On a vu le sens, mais aussi quand la binarité fait la structure, la dinamano aminu asalhat, deux membres qui vont ensemble forment un segment. Watawasaou bilhak, watawasaou bilstaber, deux membres qui forment un segment. On a aussi ici la vérité et la patience. Et les quatre vont encore former un ensemble. Parce qu'ici on a la croyance et les œuvres, donc on a un peu l'âme. De spirituel et quelque chose de phénomène qui se passe dans le monde. Si on a la vérité, c'est aussi quelque chose de spirituel. Et la patience, c'est une façon de faire dans le monde. Donc là, on a, on juxtapose côte à côte des idées, mais ça forme un ensemble. Et cet ensemble, il est opposé ici par inna et illa, ou par ainsi et sauf. On a une opposition entre l'homme et dans la défaite, sauf ceux qui croient. Donc, toute cette petite sourate est faite de parallélisme, le parallélisme ici et ici, et une opposition avec la défaite. Comment l'homme sort de la défaite? Par la foi et les œuvres. C'est l'idée du Coran. Ici, on va voir comment la binarité, donc là on a vu une petite structure, elle peut prendre place, elle va construire des plus grandes structures. On l'a vu sur des membres, sur des petits versets. Cette binarité, elle se développe, elle se construit à plus grand niveau. On verra que ça va jusqu'au niveau des sourates, jusqu'au niveau du Coran en entier. Donc on a déjà vu plusieurs exemples sur les membres de membres ensemble, certes vers nous et leur retour, certes à nous, leur compte. Donc le retour vers le Seigneur au jour du jugement, c'est le jour du compte de la vie. On a ici deux segments. Donc un segment, c'est de 1 à 3 membres. Ici, on en a deux. Il n'y a pas vraiment de parallèle dans le segment. Mais quant à l'homme, quand son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant, il dit alors « Mon Seigneur m'a honoré ». Ici, il y a un parallèle entre le Seigneur et le Seigneur, mais il n'y a pas vraiment de parallèle qui font sens à l'intérieur de ce segment-là. Par contre, quand on voit avec celui d'après, mais quand il l'éprouve, en lui mesurant sa portion, il dit alors « Mon Seigneur m'a avili ». Là, on a une opposition, qui est une opposition dans une ressemblance. Une fois l'homme est éprouvé à chaque fois, on a éprouvé, qui revient au début ici, deux façons d'éprouver différentes, en l'honorant, en lui mesurant sa portion. Il dit alors, et la réaction de l'homme est complètement différente dans les deux. Alors que ici, ce qu'on voit dans la structure, c'est que c'est la même chose, c'est juste une épreuve. Donc, on a une construction à un plus grand niveau, et qui permet de dégager une chose qui est similaire, et pour l'homme, elle diverge. À un plus grand niveau encore, là on voit, on a trois segments qui sont ensemble, qui sont opposés à trois autres segments. Les visages ce jour-là sont rencontrés. Regardez comment le Coran, juste un peu plus tard, reprend exactement la même phrase en opposant les visages ce jour-là seront radieux. Quand on lit deux phrases qui se ressemblent dans le Coran, on se rend compte, même quand le texte est lu, qu'on a une structure parallèle. On a deux choses qui sont opposées. Là, c'est facile, le feu ardent et la source et le paradis. Donc, on a l'enfer et le paradis. C'est une opposition simple. Mais quand on lit le texte en prose, on ne s'en rend pas compte, mais on l'entend. Voilà. Ici, on va avoir un exemple que j'aime beaucoup. Ça, c'est sur la sourate Yassine, qu'on est en train d'étudier en groupe, donc toute l'association sur la rhétorique coranique. J'aime beaucoup parce que vous voyez là, on a une opposition entre les deux, mais à l'intérieur même du système, il n'y a pas beaucoup de parallèles. Ici, on a un exemple très intéressant en fractal. C'est-à-dire que l'opposition va se retrouver à différents niveaux. Vous l'avez ici en arabe aussi, pour les arabophones, mais je vais parler sur le français pour tout le monde. On a une opposition. On a au grand niveau, donc entre deux morceaux, on a une partie qui est faite sur une opposition entre deux morceaux. Le premier, là-dessus je vous pose une question, qui m'intéresse, mais le premier morceau, il va dire gardez ce qu'on vous a donné, préservez ce que vous avez donné. Itaku, ma ben edikum, ou amar alafakum. Et le deuxième, il va dire à l'inverse dépenser. Ce sont deux ordres donnés à l'homme, deux ordres différents. On va voir ce que ça va donner ensuite de donner ces deux ordres différents, de les mettre ensemble. Ça, c'est au grand niveau. Donc, on a deux systèmes qui s'opposent. Mais, à l'intérieur, c'est encore deux à deux de l'opposition. Gardez ce qui est devant vous, et pourtant, l'homme, il ne leur vient aucun signe des signes de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. Donc, on leur demande de garder. En fait, ils tapent, c'est pas exactement garder, mais ils s'en détournent. Et là, on leur dit dépenser de ce qu'on vous a provisionné, pour nourrir l'autre, pour partager. Et ceux qui renient disent, nourrirons-nous celui qui, si vous voulez, nourrira lui. C'est-à-dire qu'on leur dit de dépenser, ils refusent. Et à l'intérieur encore de chacune des parties, on a une opposition. On voit bien ici l'opposition, ce qui est devant vous, ce qui est derrière vous. Leur venir et se détourner, une opposition entre les deux verbes. Dépenser et approvisionner, c'est-à-dire on vous a donné de dépenser, c'est le mouvement inverse. On a ici un parallèle entre nourrirons-nous et nourrirons. Et encore, si on voit à l'intérieur des membres, on a ici ceux qui renient et ceux qui croient. Donc on a encore une opposition. Donc ce qui veut dire que on a des petites oppositions mises ensemble par parataxes qui sont collées les unes aux autres, qui forment, il y en a deux qui vont avec les deux qui sont là, deux qui vont avec les deux qui sont là, et ça forme encore un grand tout. Donc là, vraiment, on a une structure en fractal. C'est-à-dire que quel que soit le niveau où on regarde, on a des oppositions de la même sorte. Et ça donne un sens, parce que, alors, il y a plusieurs sens, mais ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, si on garde le parallèle avec aucun signe parmi les signes de leur Seigneur, ce qui est devant vous et derrière vous, des fois dans le Coran, ça veut dire, ça parle de la Bible et le Coran. Ce qui est derrière vous, c'est déjà la Bible qui est venue avant, et ce qui est devant vous, ce qui est Ben Yadikum, ce qui est entre vos mains, c'est le Coran. On a des exemples où ça veut dire explicite. Là, c'est deviné, hein, c'est moi qui le dis. On a des exemples où c'est très explicite dans la Sourate Al-Maïda, ce qui me permet de le dire ici. Surtout qu'on a un parallèle avec les signes parmi les signes du Seigneur. Le parallèle permet aussi de faire du sens ici. Donc on demande préserver Itaku, les livres, les ordres, les choses, l'enseignement qu'on vous a donné, gardez-le pour vous, préservez-le, et à l'inverse, de la nourriture qu'on vous a donnée, au contraire, partagez-la, donnez-la à tout le monde. Donc là, et l'homme à chaque fois, il fait l'inverse. Donc, cette structure, cet exemple, il dit aussi que, quel que soit ce qu'on lui donne, on lui demande de faire une chose, de le garder pour lui, il ne veut pas garder pour lui, on lui demande de dépenser, il ne veut pas dépenser. Donc là, le parallèle entre les deux montre que de toute façon, ce que veut l'homme, c'est de faire autre chose que ce qu'on lui demande. Enfin, dans ces cas, c'est l'idée en tout cas qui est suggérée par le texte. Là, je voulais demander à Itaku, on a eu beaucoup de discussions entre nous là-dessus. Il me semble que Takwa, donc il y a le sens craindre Dieu, qui est un peu un sens symbolique qu'on reprend d'ailleurs peut-être un peu de la Bible, plus que du Coran, mais il me semble que le sens du mot, le sens matériel, ça veut dire préserver, non ? Est-ce que je me trompe ?
Prémunir.
Mais ça, c'est déjà encore un sens un peu symbolique. Mais est-ce que ça peut pas être vouloir, Chabi en parle un peu dans ses tribus, quelque chose de, Itaku, préserver.
Oui, c'est plutôt, elle en parle. Oui.
Dans les tribus, on veut garder les choses qu'on a, on veut préserver la vie.
Oui.
Et donc après, ça donnerait un sens prémunir au sens symbolique, et encore après, craindre Dieu, encore dans un niveau symbolique supérieur. Parce que je voulais savoir justement si mon opposition est valable. Ici, on a beaucoup, on s'est discuté un peu là-dessus. Entre dépenser, infraku, et itaku. Donc déjà, on a au niveau du son, hein, on a quelque chose. Et il semble qu'il y a vraiment une opposition entre les deux.